King Nomad.
Bonjour, je suis Camille Deslauriers, bienvenue à l'émission Sous l'influence des livres, le volet Rimouski de Parking Nomade, enregistré à l'Université du Québec à Rimouski. Ce mois-ci, à l'émission, nous recevons Mme Michèle Plomer. Michèle est l'auteur de 5 romans parus aux éditions Marchand de feuilles, Le Jardin sablier, HKPQ, Porcelaine, encre et en poids, et les 3 tomes de sa trilogie, dans le fond, ont été réunis sous le titre « Dragonville, l'intégrale ». Elle est aussi coéditrice du livre « Memphrey Magog » paru aux éditions Gide, et elle a signé des textes dans l'actualité « Lettres québécoises, Moebius, Virage et Jet d'encre ». Si on se fie au magazine « L'actualité », et je suis certaine qu'ils ont raison, Michèle Plomer est l'une des 35 nouvelles voix qui secouent le roman québécois. Aujourd'hui, Michèle vient nous parler de sa trilogie intitulée « Dragonville », donc qui est parue au Marchand de feuilles en 2013. Dans un premier temps, on va parler de son œuvre et de sa démarche d'écriture. Dans un deuxième temps, Michèle nous lira un extrait de « Dragonville ». Enfin, dans un troisième temps, nous allons reparler avec Michèle et suivant notre tradition et aussi pour rester fidèle à ce qu'indique le titre de notre émission, nous allons aborder ses lectures phares, son rapport à la lecture et l'influence de certains livres ou certains auteurs marquants dans sa démarche d'écrivaine. Alors, nous accueillons aujourd'hui à l'émission Mme Michèle Plomer. Bonjour Michèle et bienvenue à l'émission.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Ça nous fait un grand plaisir. Il conviendrait peut-être, je pense, de résumer très brièvement Dragonville. C'est pas évident parce qu'on a là 3 tomes, mais quand même, je vais essayer de le faire de façon succincte. Alors, Dragonville est composé des romans Porcelaine, encre et en poids, comme je le soulignais tantôt, dans lesquels on alterne les destins de 2 personnages principaux. D'une part, on a Sylvie Mathews, qui est née dans les cantons de l'Est, qui a longtemps vécu en Chine et qui vient de revenir s'établir à Magog pour ouvrir une boutique d'importation chinoise de qualité dans un local qui est en fait une ancienne blanchisserie chinoise. Et cette histoire-là se passe en 2010. D'autre part, on suit aussi le destin de Li Lebo, le plus bel homme de Chine, qui vit très modestement à Hong Kong avec sa mère, mais sa mère est dépendante à l'opium et c'est lui qui la fait vivre, ce jusqu'à ce qu'il soit remarqué par Madame Lung, une femme très spéciale qui est aussi un dragon, avec qui va vivre une histoire d'amour très particulière. Et cette histoire-là se passe en 2010. Et puis, ben, on ne dira pas comment, mais dans le dernier tome, on pourrait dire que tous les destins se rejoignent et que tous les fils de l'intrigue se dénouent. Alors, Michèle, quand on écrit des romans, des récits ou des nouvelles, on crée des mondes nécessairement, des mondes qu'on invente ou qu'on emprunte au réel. Et créer des mondes, ben, ça demande de représenter même minimalement un espace, donc des lieux où vont vivre des personnages. On entend souvent qu'il y aurait, dans le fond, 2 types d'écrivains. Les écrivains chez qui le rapport au personnage est vraiment déterminant dans la démarche d'écriture, c'est à la base de tout, c'est le personnage qui inspire tout le reste, hein, qui est porteur de l'histoire dans le fond. Et d'autres chez qui c'est davantage l'espace, donc les villes, les pays, les mondes et leur atmosphère qui vont s'avérer la source d'inspiration première. Alors chez vous, Michèle, qu'est-ce qui est le point de départ? Est-ce que c'est les personnages ou les lieux où va se dérouler l'histoire?
C'est difficile pour moi de séparer ces 2 éléments-là. Mm-hmm. Moi, je suis vraiment une écrivaine, en fait, les sujets se saisissent de moi. C'est comme ça que je le vis, que je le ressens. Je deviens obsédée par mes sujets. Et dans le cas de Dragonville, eh bien, j'ai vécu pendant 4 ans temps plein en Chine, mm-hmm. et je suis revenue de la Chine complètement remplie, nourrie, envahie, et j'avais besoin d'un exutoire pour parler de cette nouvelle passion. D'accord. Et en même temps, j'étais en Chine de 2004 à 2008, mm-hmm. et quand je suis revenue au Québec, le monde entier se préparait aux Olympiques de Pékin de 2008. Oui. Et on parlait beaucoup dans les médias de la Chine, mais c'était toujours des petites capsules très, très courtes, des petites capsules de, à la Radio-Canada de 2 minutes. Oui. Et je trouvais qu'on ne faisait pas honneur à la Chine. On parlait beaucoup de la beauté des femmes, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de belles femmes dans un pays où il y a 1,3 milliard de personnes. Il y en a qui vont être belles, mais il y a aussi de très beaux hommes. Alors, je voulais aussi parler d'eux, de la beauté des hommes. Alors, j'ai décidé de mettre en scène le plus bel homme de Hong Kong. D'accord. Et qui serait son amante, qui serait son amoureuse. Il fallait que ce soit une femme extraordinaire, une femme formidable. Et dans le paysage de la Chine du Sud, il y a ces montagnes qui sont comme des dos de dragons, comme des dragons endormis. Et dans la mythologie chinoise, les montagnes sont des dragons. Ils prennent vie. Et le dragon peut prendre plusieurs formes. Donc, la forme d'une femme. Alors, personnages et paysages vraiment entremêlés dans la création de ce roman-là.
Merci beaucoup. Ensuite, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de la structure de votre roman, qui est très particulière. Hein? Je l'ai mentionné dans le résumé, on alterne entre deux histoires. Une qui se déroule à Hong Kong, l'autre qui se déroule à Magog. Il y a 100 ans d'intervalle entre ces deux histoires-là. Et on se promène comme ça d'un lieu à l'autre, d'une époque à l'autre, de l'Orient à l'Occident. Et on a des descriptions très précises de certains lieux très précis, avec leurs odeurs, leurs bruits, leurs couleurs. Et je dirais que chez vous, les odeurs particulièrement sont vraiment précises. C'est fascinant. On a vraiment l'impression de savoir ce que ça sent vraiment dans une blanchisserie du début du siècle, à Magog, par exemple, qui est tenue par des Chinois, ou comment toute l'odeur d'Hong Kong se trouve résumée en son essence dans un bol de congee. Donc, mes questions sont les suivantes. Hein. Vous l'avez dit, vous avez vécu en Chine pendant plusieurs années et vous vivez encore dans les cantons de l'Est. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu écrire Dragonville sans avoir vécu à Magog et inversement sans être allé à Hong Kong? Et qu'est-ce qui aurait été changé dans ce cas-là dans votre démarche? Puis peut-être un autre volet, parce que ma question est à plusieurs volets. Pensez-vous que c'est utile ou nécessaire quand on écrit d'aller vraiment sur les lieux qu'on met en scène et dans les lieux où l'histoire va se dérouler? Ou alors on peut dire on va fouiller sur Internet et on va imaginer à partir de là, parce qu'on a maintenant des photos, des vidéos, il y a juste les odeurs qu'on n'a pas dans le fond.
Je pense que tous les processus d'écriture sont valides, sont valables, mais pour moi, j'ai besoin de connaître viscéralement le lieu que je mets en scène dans mes romans. Pour moi, ça fait partie du plaisir d'écrire que de me remettre dans ces ambiances-là, à ma table de travail, en solitaire, d'être en plein milieu de Temple Street à Hong Kong et de m'imaginer à 2h du matin en train de manger un bol de congee avec des familles alentour de moi en pyjama. J'ai plaisir à me remettre dans cet esprit-là. J'imagine. Donc, pour moi, il faut que je connaisse le lieu, donc il faut que j'y sois allée. Ouais. Je suis aussi une fille qui prend pas de photos je suis ailleurs. Donc, tout est dans le senti, dans le souvenir. Le fait de ne pas me référer à des photos que j'ai prises ou à des photos sur Internet fait en sorte que je suis obligée de puiser vraiment dans l'intime de ces lieux-là,
donc dans
de ces expériences.
Ouais.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup. Pour terminer, j'aimerais ça aussi qu'on aborde cette légende locale de laquelle vous vous inspirez, parce que vous en faites quelque chose de très personnel. Dans le fond, vous partez aussi dans cette trilogie-là du monstre du lac Manfred Magog. Vous partez de ce monstre-là que plusieurs gens prétendent avoir aperçu, mais qui est dans le fond aussi un mythe universel, puisque chaque lac a son monstre et que des monstres dans la mythologie, il y en a beaucoup. Mais vous inventez votre réponse, votre explication, une explication qui est fantastique, personnelle et imaginaire, à la légende. Comment est-ce que vous avez eu cette idée-là?
En fait, je voulais vraiment, dans Dragonville, faire se rencontrer les trois continents, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Je voulais qu'ils se rencontrent l'Occident et l'Orient, et le vieil Occident et le nouveau monde. Alors, parce que j'habite Magog et je vis dans mon quotidien avec cette légende du monstre dans mon lac, c'était comme présenté sur un plateau d'argent qu'il y a une partie de l'histoire qui se passe en Écosse, où il y a le monstre du Loch Ness, et l'autre partie à Hong Kong, où les montagnes, l'environnement et la mythologie chinoise fait vivre les dragons. Et puis un monstre lacustre, c'est un dragon avec des palmes. Donc c'était aussi faire rencontrer des personnages de ces trois continents-là et les trois dragons, et de tisser ma réponse.
Qui est magnifiquement tissée d'ailleurs.
Merci
beaucoup, Michel, d'avoir répondu à mes questions sur votre démarche créatrice et sur votre trilogie Dragonville.
Down in the lowlands, a poor boy did wander. Down in the lowlands, a poor boy did roam. By his friends he was neglected, he looked so dejected, cried the poor little fisher boy, so far away from home. Where is my cottage? Oh, where is my father? Alas, they're all gone, which caused me to roam. My mother died on her pillow, while my father was out on the billow, cried the poor little fisher boy, so far away from home. Bitter was the night, and loud roared the thunder. The lightning did strike, while the ship was overcome. The boat soon I clasped, and reached my native shore. In the deep I left my father, so far away from home. I waited on the beach, while around me dashed the water. I waited on the beach, but alas, no father came. So now I am a stranger, exposed to every danger, cried the poor little fisher boy, so far away from home. A lady, when she heard him, quick opened up her windows, and into the house she bid for him to come. The tears fell from her eyes as she listened to the cries of the poor little fisher boy, so far away from home. She begged of her father to find him employment. She begged of her father no more to let him roam. Her father said, "Don't grieve me, the boy will never leave me. Poor boy, I will relieve thee, so far away from home." Many years the little boy labored to please his noble master. Many years the little boy labored, in time became a man. And now he tells each stranger the heartbreak and the danger of the poor little fisher boy, so far away from home.
Maintenant, si vous le voulez bien, écoutons Michel Plamer nous lire un extrait du roman En poids de sa trilogie Dragonville.
Une femme faisait la lessive sur le toit plat de l'immeuble de bureau voisin de la Perle Rieuse. Elle frottait les vêtements sur une planche à laver, comme dans les films western, avec un pain de savon couleur ambre. Une femme à croupetons, svelte et sans âge, aux longs cheveux ramenés dans le dos, occupée à une tâche qui réduisait les femmes à l'anonymat partout dans le monde. Nez collé à la vitre, je laissais mon regard dégringoler le long de l'immeuble de bureau identique à d'innombrables immeubles de bureau à Canton. Une quinzaine d'étages revêtus de tuiles grises, mangés par la pollution, une laideur imaginée par des architectes gouvernementaux. La pénurie endémique de logements à bas prix permettait de transformer en dortoir les menus espaces destinés au remisage ou au débarras dans ces édifices. On les louait sans difficulté aux jeunes venus de la campagne pour occuper des postes de commis aux descriptions nébuleuses dans des sociétés à désignation numérique. À cause de la loi du nombre, ils acceptaient d'être payés maigrement pour leurs connaissances et leur génie mathématique, pour leur cerveau qui demandait à être nourri par les défis. Les coutumes millénaires ne se perdent pas facilement, même dans une forêt de gratte-ciel. Ces travailleurs mettaient en commun leur salaire pour faire venir une femme de leur province natale. Elle leur préparait les mets que leur mère leur avait fait promettre de manger. Elle faisait leurs courses, lavait leur linge et faisait ce qu'une femme devait faire. Valait mieux se partager une femme du village que de risquer de choper quelques maladies qui couraient dans les grandes villes. Lorsque les vêtements formèrent une petite pyramide aux couleurs froncées par l'eau, la femme enleva ses babouches, se lava les pieds, puis versa doucement l'eau sale sur les tuiles racornies de la toiture, telle une offrande dans un lieu sacré. Elle accomplissait chaque geste avec une grâce et une présence qui laissaient croire que c'était le seul but de sa journée. L'eau chaude pour le lavage avait été transportée sur le toit dans un thermos de 2 litres, un objet essentiel qui tenait du miracle dans un pays où il fallait faire bouillir l'eau chaude pour la rendre potable et où seule l'eau froide coulait des robinets. En tendant le bras pour saisir l'anse du thermos, la femme leva la tête et son œil fut attiré en face par ma présence à la fenêtre, une cassure dans l'uniformité indifférente du mur de carré aux rideaux tirés. Je lui adressai un bonjour de la main, consciente de l'avoir surprise dans son intimité. Des millions de citadins fourmillaient 15 étages plus bas sur les pavés de la ville. Mais c'est mon regard silencieux qui brisa la charme de sa précieuse solitude. Elle reprit le rinçage sans répondre à mon geste. Elle serait là tous les matins durant mon séjour, mais je ne la dérangerai plus. Je la laisserai tranquille avec l'immensité du ciel.
It's coming down to Manchester to gain my liberty. I met a pretty young maiden, and she seemed full of glee. I met a pretty young maiden, the first I'll ever see. At the Angel Inn in Manchester, there is the girl for me. Then early next morning, just at the break of day, I went to my love's bedside, my morning vows to pay. I hugged her and I cuddled her and I bade her to lie warm. And she said, my jolly soldier, do you mean me any harm? To mean you any harm, my love, is the thing that I would scorn. If I'd stopped with you all night, love, I'd marry you in the morning. Then before my lawful officer, my vows I will fulfill. And she said, my jolly soldier, lie for as long as you will. Came on the Thursday on the Monday we marched away. The drums and fifes and bugles so sweetly they did play. Some hearts, well, they were merry. Mine was full of woe. My love, she says, may I go along with you? Oh no, oh love, oh no. I'll go down to your officer and I'll buy your discharge. 10 guineas I'll surrender if they'll set you at large. And if that will not do, my love, along with you I'll go. So will you take me with you now? And still I answered no. I'll go down in some nunnery and there I'll end my life. I'll never have a lover now, nor yet become a wife. But constant and true-hearted love forever I'll remain. And I never will get married till my soldier comes again. And I never will get married till my soldier comes again.
Merci infiniment, Michel. Nous sommes de retour donc avec Michel pour le troisième segment de notre émission. Alors, Michel, si vous deviez identifier les auteurs marquants ou les livres marquants qui ont joué un grand rôle dans votre parcours de lectrice et ou d'écrivaine, quels seraient les noms qui vous viendraient à l'esprit et pourquoi?
Bien, le premier, je pense, certainement en rapport avec Dragonville, c'est un livre qui s'intitule « Passagère du silence », écrit par Fabienne Verdier, qui est un livre éblouissant qui m'a éclairé, qui m'a révélé des choses sur la Chine que je connais pourtant bien. Mais des fois, quand on est dans un pays où on ne parle pas bien la langue et où les codes sont tellement opaques pour nous que quand on revient, tout à coup, on tombe sur des lectures fabuleuses qui nous ouvrent la lumière sur certaines choses. Et ça a été le cas pour Passagère du silence. Et ça, ça a été un grand cadeau dans ma vie parce que j'étais dans un salon de livres à Morges, en fait, un très beau festival littéraire. Et une femme, je ne connaissais pas Fabienne Verdier du tout, et c'est une lectrice qui est venue me rencontrer pour me parler de ce livre-là. Et le lendemain, j'étais en séance de dédicace en après-midi, et quand je suis arrivée à ma table de signature, on m'a dit « Michel, il y a une dame qui est venue te porter un livre », et elle m'avait amené ce livre-là que je tiens entre mes mains en ce moment. Donc, merci de me donner la chance de la remercier. Publiquement. J'ai jamais revu cette dame-là.
Oui. C'est fascinant, vraiment. En contrepartie, parce que, comme tous les mois, je suis un peu curieuse de mieux connaître mes invités en tant que lecteur et lectrice, hein, dans tous les sens du terme, si je vous demandais quelles seraient les œuvres ou les livres qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans la bibliothèque de Michel Plomer, qu'est-ce que vous répondriez?
En fait, moi, je dévoile tout. je vous révèle être une très, très grande lectrice et consommatrice de bandes dessinées.
Ah ben?
Oui.
Bandes dessinées,
c'est bien. Et j'ai pensé à Chronique de Jérusalem de Guy Delisle parce que c'est vraiment dans l'air du temps, en fait, des 40 dernières années, peut dire. Si vous voulez tout comprendre sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, Chronique de Jérusalem nous en fait un exposé vraiment savant, je dirais, mais dans une façon très, très facile et très accessible. J'apprends beaucoup de choses par la BD, moi.
Ah, ben c'est vraiment intéressant.
Belle école.
Même pour les enseignants qui nous écoutent, hein, ça pourrait être intéressant de mettre ce livre-là au programme pour les élèves du secondaire, par exemple. Alors, merci beaucoup, beaucoup à notre invité Michel Plomer. Merci également à Jean-Luc Théberge à la technique. Je vous rappelle que l'émission Sous l'influence des livres a été enregistrée à l'Université du Québec à Rimouski. Chères auditrices et chers auditeurs, au plaisir de vous retrouver le mois prochain.
Viking nomade.